France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Le monde entier appelle à éviter l'escalade, mais au soir des explosions survenues en Iran, le fait est qu'Israël ne revendique toujours pas et que les Iraniens eux-mêmes semblent minimiser ce qui s'est passé ce matin. Nous serons en Israël dans un instant avec l'envoyé spécial de France Info. Au menu également des informés, la pénurie d'eau qui menace. Ça étonnera tous ceux qui sont sous des trombes d'eau depuis quelques jours, mais il pleut de moins en moins et on consomme de plus en plus d'eau. Constat de France Stratégie. Florence Abetz, l'hydroclimatologue, chercheuse au CNRS, sera avec nous. Et puis, c'est la première artiste milliardaire grâce à sa musique. Nouvel album de Taylor Swift. Énorme buzz pour cette chanteuse américaine qui fait aussi trembler les Trumpistes. On en parle avec Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express. Véronique Reissoul, présidente de Backbone Consulting, maître de conférence en communication de crise à Sciences Po. Et Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Et direction d'Israël tout de suite. Bonsoir à Jérôme Mohamed.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous.
Envoyé spécial de France Info, vous êtes à Haïfa toute la journée. Les spécialistes ont souligné le caractère calibré, on va dire, des frappes de la nuit dernière attribuées à Israël contre l'Iran. En face, les Iraniens minimisent plutôt ce qu'on va considérer comme le troisième acte de cette confrontation entre les deux pays. Aucune victime, très peu de dégâts. On rappelle l'attaque d'un consulat iranien en Syrie il y a une dizaine de jours et les drones iraniens lancés le week-end dernier, là aussi avec un bilan très limité. Israël, en tout cas, ce soir, ne revendique toujours pas.
Oui, toujours pas de commentaires ni de l'armée israélienne, ni du gouvernement, ni du Premier ministre Benjamin Netanyahou après ces trois explosions qui ont retenti donc la nuit dernière en Iran, dans le centre du pays, autour d'Ispahan, où se trouve une base militaire et des installations nucléaires. Alors les agences de presse et la télévision iranienne ont affirmé dans un premier temps que plusieurs drones ont été abattus, puis finalement l'une de ces agences a écrit qu'en fait il n'y avait eu aucune attaque venant d'un État étranger, aucun dégât non plus à recenser. Le doute persiste donc, même si ce qui s'est passé la nuit dernière pourrait bien être effectivement une riposte menée par Israël, qui aurait donc dans ce cas choisi une réponse mesurée et ciblée, ce qui éviterait sans doute une nouvelle escalade entre ces deux pays du Moyen-Orient.
Agera, qu'en pensent et qu'en disent les Israéliens ce soir ?
Eh bien écoutez, les Israéliens qu'on rencontre ici à Haïfa, au nord du pays, sont convaincus qu'il s'agit bien d'une réponse de leur armée à l'attaque lancée par l'Iran le week-end dernier, et les avis sont plutôt partagés. Par exemple, j'ai croisé ce couple qui félicitait Benjamin Netanyahou tout en regrettant, je cite, la faiblesse de cette réponse. Il fallait taper plus fort, me disait le mari. Et puis d'autres au contraire qui m'ont dit que c'est si c'est bien Israël qui est derrière ces explosions, eh bien c'était mal calculé, qu'il aurait mieux fallu attendre pour y poster. La priorité aujourd'hui est de faire retomber la pression pour eux, surtout avec le Hezbollah libanais qui menace au nord et le Hamas contre qui le pays est toujours en guerre à Gaza, et sans oublier aussi les otages. Ils sont 129 encore officiellement retenus par le Hamas. Un habitant de Haïfa me disait que finalement l'Iran, ça pouvait attendre. La priorité, c'est la libération de ces Israéliens.
Merci à Gérard Mohamed avec les moyens techniques à Haïfa de Sandrine Malon pour France Info. Alors sur cette crainte ou pas d'escalade, une parole, c'est pas fréquent d'entendre des politiques parler comme on va l'entendre là. Je vous propose d'écouter Nathalie Loiseau, l'eurodéputée Renew, qui était l'invitée de France Info à 18h20.
C'est quand même une attaque un peu particulière puisqu'elle n'est pas revendiquée par l'attaquant et elle est même niée par celui qui a été attaqué. Il s'est passé quelque chose dont on voit que l'Iran et Israël essayent de minimiser la portée. C'est un peu rassurant dans une région à haute tension depuis longtemps, inflammable depuis longtemps et qui se heurte déjà à la fois à la guerre que le Hamas a déclenchée contre Israël et à toutes ses répercussions.
Voilà, alors évidemment les appels sont venus du monde entier pour éviter l'escalade, Étienne Girard, mais c'est vrai que c'est comme si personne ne la redoutait vraiment.
Oui, c'est très atypique effectivement comme situation. J'ai pas d'informations exclusives, mais en interrogeant les experts, on peut amorcer un début d'analyse sur ce qui se passe. Tout se passe, ou presque tout se passe, comme si au moins en l'état, Israël et l'Iran se seraient mis d'accord. En tout cas, le message qu'ils envoient, c'est maintenant, c'est bon. Un partout, balle au centre. On s'arrête là pour le moment. Il y a quelques, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais il y a quelques signaux qui tendent à montrer que qu'Israël n'est pas totalement étranger. Il y a le ministre de l'Intérieur d'Israël qui ne fait pas partie du Conseil de guerre, mais qui a fait des remarques sur l'attaque. Il a regretté la faiblesse de cette attaque, ce qui est en creux de la part de quelqu'un qui est quand même au plus haut niveau de l'État, tendait à reconnaître que c'est Israël qui est à l'initiative. Et le fait que cette attaque n'ait pas été mentionnée par le président de l'Iran est quelque chose de très particulier. Il ne peut être qu'un signe codé. C'est-à-dire que même si c'était pas Israël qui était à l'origine des explosions, la logique aurait voulu qu'un tel événement soit mentionné par les autorités de l'Iran. La logique, si l'Iran avait décidé de riposter une nouvelle fois. On peut penser que, au moins à court terme, les deux parties veulent envoyer le message que l'incident, si on peut parler d'incident, dans de telles proportions, est clos.
Ce qui est clair aussi, c'est que depuis la création d'Israël, aucune agression extérieure ne reste jamais sans réplique. Officiellement, alors ce sont les Américains, on l'a pas dit, mais qui ont attribué au départ cette attaque à Israël. Est-ce qu'il y a le moindre doute, Franck Dedieu ?
Je crois pas. Il n'y a pas de doute. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est à peu près d'accord pour dire, on est le 19 avril, pour dire qu'il y a quelque chose de presque historique. Il y a une sorte de on est passé de la surenchère verbale des deux parties à une sorte de com de désescalade des deux parties. À la fois l'Israël qui ne revendique pas, et puis l'Iran qui n'attribue pas la frappe à Israël. Et donc ça permet aussi de relativiser. Pourquoi ? Parce que le 13 avril, c'était pas il y a des mois et des mois, c'était il y a une semaine, même moins d'une semaine. On n'était pas en train de parler du caractère historique de la non-escalade, mais du caractère historique de l'escalade. C'est-à-dire qu'on était passé, je dirais, de confrontation indirecte à quelque chose de nouveau dans la gradation du conflit, qui est la confrontation directe. Et donc, moi, je me méfie des commentaires qui sont très à chaud, où le 13 avril, c'est historique du point de vue de la gradation belligène, et le 19... Il y a quelque chose d'étrange, de presque, je dirais, rassurant, entre guillemets. Donc, c'est surtout, je dirais, le wait and see, les questionnements qui vont émerger, et on attend la prochaine étape. Ça sera de quoi ? Ça sera une sorte de gradation dans la désescalade, ou alors une sorte de remise à niveau ?
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Véronique Rissoult est là pour Backbone Consulting, Étienne Girard pour L'Express, Franck Dedieu pour Marianne. Véronique, sur les réseaux sociaux, vous êtes notre œil tous les vendredis sur ces réseaux sociaux qui évidemment, alors un peu partout...
Partout dans le monde.
Partout dans le monde, on a dû en parler. De quelle façon ?
Et la théorie que Franck Dedieu nous exposait se révèle réelle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en gros, pour vous donner une idée, au moment de l'attaque, il y a eu à peu près 20 millions de messages depuis autour de l'Iran et de ce qui s'est passé, donc depuis le 13 et le 14. Et quand on regarde dans les 20 millions de messages, bon, à peu près 40% c'est aux États-Unis, le reste réparti dans le monde entier. Et les messages principaux, enfin les mots les plus utilisés étaient attaque, réponse et escalade. Et il y avait beaucoup dans les émotions, beaucoup de peur d'un peu partout dans le monde
lié à cette
escalade.
Ça, c'était depuis 10 jours.
Depuis 10 jours. Et là, depuis ce matin, il y a 2 millions de messages. Donc on voit qu'il y a une réalité de quelque chose qui prête moins l'attention. Quand on regarde les mots qui sont utilisés, il y a de nouveau le mot escalade, mais il y a le mot désescalade qui commence à apparaître. Donc effectivement, on va dire que dans l'opinion publique, globalement, c'est ainsi. Et en France, quand on regarde sur l'ensemble des messages, on ne représente que 2,5% des messages dans le monde sur le sujet. C'était principalement le sujet de l'attaque en France du consulat qui retenait l'attention, donc un sujet domestique.
Ah, c'est d'Iran dans le 16e arrondissement.
Et beaucoup de questions autour de l'Iran, sachant que la diaspora iranienne n'est pas très importante ici, elle est plus forte au Canada, et que globalement...
Ils sont très actifs là-bas.
Oui, ils sont très actifs, et je regardais cet après-midi, c'était beaucoup de messages autour de ça. Dans le fond, cette attaque en soi et cette désescalade, elle est saluée et est en même temps un peu regrettée en se disant c'était peut-être le moment où Femmes, Vie, Liberté et l'ensemble du mouvement pourraient aider sur place les Iraniens. Parce qu'il y a autre chose, ce sont des guerres d'images. Et les images qui étaient partagées sur les réseaux cet après-midi depuis Téhéran étaient des images d'une ville normale, où tout va bien, où les choses sont apaisées. Ou sinon des images de gens qui manifestaient il y a quelques temps sur Israël et qui représentent pas forcément ce que les Iraniens souhaitent en soi. Donc on voit que...
Mais ce que vous nous dites, donc, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de phénomène qu'on aurait pu aussi imaginer de, entre guillemets, remettre le sujet en haut de la pile.
De
cette mobilisation, notamment des femmes qui a tendance à disparaître assez dramatiquement dans le flot du reste de l'actualité internationale. Et c'est même pas le cas.
Au Canada, on voit que la diaspora a essayé de se saisir de ce sujet pour remettre à l'ordre du jour la réalité de ce combat, remettre la lumière et faire en sorte que les uns et les autres bougent. Mais dans le fond, sur l'ensemble des messages, ça ressort pas tant que ça en soi. C'est plutôt un sujet de désescalade et les gens se réjouissent parce que, dans le fond, ils avaient peur qu'il y ait un enflammement en soi.
Alors, il y a une particularité peut-être qu'on peut pointer, c'est que, on l'a appris dans la journée, c'est que l'attaque a possiblement été menée depuis le territoire iranien. C'est ce que dit notamment le New York Times, qui cite plusieurs sources iraniennes. Et c'est aussi l'hypothèse privilégiée par le général Dominique Trinquant, on va l'écouter, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, qui était sur France Info.
C'est très intéressant parce que cette information, elle a été surtout fournie par les Iraniens. Or, ça a deux conséquences. La première, c'est que ça montre la vulnérabilité du dispositif sur le territoire iranien qui peut se permettre d'avoir des agents infiltrés maniant des drones à l'intérieur de l'Iran et singulièrement dans la région d'Isfahan où est le site nucléaire majeur iranien. La deuxième, c'est que ça permet en revanche aux Iraniens de dire « ben, on n'a pas eu d'attaque de l'extérieur ». Et en plus, il n'y a aucune attaque qui a atteint le sol iranien. Donc, pour se défausser d'une réelle attaque venant de l'extérieur, les Iraniens sont prêts à accepter de montrer qu'ils ont une faiblesse sur leur dispositif intérieur.
Là aussi, c'est intéressant, cette notion de vulnérabilité, Étienne Girard.
Ouais, on est vraiment dans le jeu d'ombre du renseignement et de la diplomatie. De l'utilisation de telles informations peut se poser mille questions. L'Iran choisit de le dire. Est-ce vraiment à l'avantage de l'Iran de dire il y avait des agents infiltrés sur notre sol? On peut dire non, comme le dit le général Trinquant, ça raconte l'extrême faiblesse finalement d'un régime qui ne sait pas qu'il y a des espions israéliens sur son sol, mais ça raconte aussi qu'Israël, si tel est bien le scénario, et ça semble le cas, a utilisé des agents infiltrés en Iran, ce qui est très difficile, et qui pouvaient disposer de telles armes pour mener finalement une opération qui n'a tué personne, une opération finalement au dommage qui reste faible. Donc c'est aussi dire, regardez, Israël a utilisé des cartes extrêmement importantes pour pas grand chose. Donc à la fois ça raconte la vulnérabilité de l'Iran, mais ça raconte aussi à quel point Israël a misé sur cette réponse et finalement pour pas grand chose, au moins en termes matériels.
Sur cet aveu, Franck de Dieu.
Toujours très difficile, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir, l'interprétation symétrique, c'est-à-dire que vous avez d'un côté un dôme de fer qui s'est révélé très efficace, et puis de notre côté un territoire qui est infiltré par des espions. Donc il y a de multiples interprétations, et selon celle qu'on privilégie, on peut aussi avoir de multiples conclusions sur la force et la faiblesse des deux parties.
Alors, c'est des frappes qui prouvent en tout cas une chose aussi, c'est que Israël n'écoute vraiment pas Joe Biden. ils n'ont aucune crainte, ils ne semblent avoir aucune crainte que les États-Unis les lâchent. Ça, c'est très frappant. Est-ce que c'est ça que vous comprenez aussi?
En tout cas, il sera. Je dirais que la vérité est entre les deux.
C'est peut-être un peu caricatural, voilà. Ça que vous
voulez dire? Non, c'est pas caricatural, mais très clairement.
Les pressions des dernières semaines dont on parle beaucoup, pour notamment concernant la situation à Gaza, là, il laisse entendre quand même que Joe Biden n'a pas l'oreille du
Alors, la question se pose en réalité. On peut se demander quelle aurait été la réponse d'Israël s'il n'y avait pas eu ces pressions américaines. Ce qui est très clair, c'est que les Israéliens, parce que il en va de la survie de leur régime, ne sont pas aux ordres des Américains sur le dossier, que ce soit le dossier Gaza ou que ce soit le dossier Iran. Mais cela dit, on peut quand même remarquer que la riposte choisie est une riposte extrêmement modérée. On ne peut pas ne pas le dire. On parlait d'escalade, de scénario du pire. Nous, c'est notre titre, c'est une de l'Express.
Dossier passionnant, vraiment. C'est
gentil de le dire et je suis d'accord. Aujourd'hui, l'option retenu aujourd'hui, effectivement, regardons ce sera demain. Mais aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus light qui a été retenue, par le gouvernement israélien. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement israélien ne veut pas ouvrir un front de l'ampleur de Gaza avec l'Iran, et peut-être que c'est quand même un peu dû aux pressions américaines également.
Juste coup d'œil sur le côté américain, Véronique.
Qui est un sujet, effectivement, qui était très traité. Quand je vous disais 20 millions de messages, il y a à peu près entre 40 et 50% selon les jours de messages qui viennent des États-Unis. Et c'est le pays qui a le plus commenté, évidemment, l'attaque depuis ce matin. Mais on voit bien que même...
Pour souligner justement
Le fait qu'Israël, dans le fond, n'a pas l'air de les écouter plus que ça. Pour souligner le fait que les Iraniens sont aussi des ennemis et qu'il est important de leur montrer qu'ils ne sont pas si libres que ça. Il y avait aussi pas mal de commentaires sur la guerre des drones qui est un peu parallèle, mais en disant ces guerres où il n'y a plus de morts et où ça se passe avec des drones.
Oui, parce qu'on ne l'a pas forcément précisé, mais on parle de petits drones quand on parle d'une attaque qui serait menée depuis le territoire iranien.
Donc aux États-Unis, c'était pas mal commenté ça. Mais globalement, on voit bien que c'est un sujet qui les importe, mais là, le volume avait vraiment baissé et les commentaires étaient plus... contre l'Iran, pointant le fait qu'Israël fait peut-être un peu casse-à-tête, mais dans le fond, ça convenait aux Américains.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Alors, pour ceux qui nous suivent en radio, vous aurez peut-être reconnu cette voix. Et pour ceux les plus jeunes qui ne l'identifient pas forcément, c'est évidemment René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle de la Ve République, avec son col roulé rouge. On est en 74, col roulé qui réapparaît sur les réseaux sociaux.
Alors, c'est les écolos, depuis ce matin, n'arrêtent pas de faire des hommages à René Dumont. Alors, ils ont tous des t-shirts rouges, des cols roulés rouges, en rouge.
Et ils ont reproduit la scène.
Ils ont reproduit la scène, ils boivent tous un verre d'eau, ils trinquent... À la mémoire de René Dumont, en disant il avait raison. Et en fait, c'est l'image qui est la plus partagée et c'est comme ça qu'ils se sont exprimés depuis quelques jours et ça prend.
À l'époque, ça a fait presque ricaner. Il se trouve que quand même 2 ans après, il y a eu cette sécheresse de 76 et qu'aujourd'hui, c'est évidemment totalement d'actualité. Bonsoir Florence Abetz.
Bonsoir.
Vous êtes hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS, professeure attachée à l'ENS. C'est France Stratégie qui tire la sonnette d'alarme avec pour la première fois un rapport sur l'état de la ressource. Contrairement à ce que pourrait laisser penser cet hiver 2024 assez pluvieux, il pleut de moins en moins. 14% d'alimentation en moins en 15 ans. L'eau est moins disponible. Or, on en consomme de plus en plus. On se met même à irriguer les vignes, par exemple. Qui consomme le plus et pour quel usage ?
Oui, alors effectivement, le rapport de France Stratégie, en fait, permet d'avoir une bonne idée, enfin une meilleure idée des usages de l'eau. Et donc, dans ce rapport, ils expliquent que Il y a une grande partie de l'eau qui est consommée en fait par l'irrigation, hein, ça c'est pas étonnant. Donc ils expliquent bien la différence entre la consommation et les prélèvements. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on prélève une quantité d'eau qui est quand même importante, mais dont une partie revient finalement dans les cours d'eau ou dans les nappes. Et la partie qui est consommée finalement, donc qui ne revient pas au milieu, est principalement consommée en fait pour l'agriculture. Et puis ensuite pour l'énergie et ensuite pour l'eau potable.
L'eau qui retourne ensuite dans les rivières, c'est notamment celle qui refroidit, mais elle repart pas tout à fait elle repart un peu réchauffée et qui refroidit les centrales nucléaires, c'est ça?
C'est ça, voilà. Donc il y a plusieurs usages. Il y a des usages qui sont liés au refroidissement des centrales. Il y a des usages qui sont liés même pour l'eau domestique. En fait, il y a beaucoup d'eau qui revient au milieu, qui n'est pas en fait consommée, puisque quand on tire la chasse, par exemple, l'eau va être traitée dans les stations d'épuration et donc être traitée et revenir ensuite dans l'eau. Dans le milieu, dans les rivières. Voilà, donc effectivement, donc l'apport de ce rapport, c'est bien d'estimer un petit peu la consommation d'eau qui n'était pas si bien connue que ça et de bien faire la part entre les différents usages de cette consommation.
Alors c'est vrai que, Franck de Dion, les gens ont sans doute peine à l'imaginer, vu tout ce qui tombe, voilà, mais c'est toujours la différence entre météo et climat d'ailleurs. Et là, les chiffres sont quand même assez inquiétants, et avec des pratiques, notamment agricoles, qui ont vraiment changé et qui vont être requestionnées nécessairement.
Oui, alors c'est vrai que c'est à la fois très... Il y a une sorte de contraste, hein. On se plaint de la pluie et puis effectivement il y a un dossier sur la sécheresse et c'est bien qu'on en parle ce soir sur France Info. C'est assez naturel, vous l'avez dit. Il pleut moins, 14% de moins sur les 20 dernières années ou 15 dernières années. Et puis on arrose plus, on irrigue davantage. La question qui se pose, vous parlez de l'agriculture, c'est que ça va probablement, dans la mesure où cette irrigation se concentre sur des surfaces de plus en plus petites. D'abord, ça va créer des pressions de conflit. Et puis, demain, peut-être, un changement de modèle économique pour l'agriculture. Songez que, par exemple, vous avez des pays, comme en Espagne, où les coûts de production du secteur agricole qui pèse de tout son poids dans l'économie ont en train d'augmenter. Vous avez en France, demain, peut-être, comme l'Inde en 2022, des restrictions sur les exportations. Si on parle de souveraineté alimentaire, si on dit demain il faut être capable de nourrir les Français, l'Inde, sur le blé et le sucre, avait décidé d'arrêter les exportations tout simplement pour nourrir sa population. Alors, la France, c'est pas l'Inde en termes démographie, je suis bien d'accord avec vous. Mais on peut imaginer que demain, si on est avec une pluviométrie qui est réduite et de l'irrigation qui exige toujours plus... être dans des logiques de problèmes de souveraineté alimentaire, avec potentiellement, une restriction des exportations de produits agricoles, tout simplement pour favoriser la population locale.
Ça pointe en tout cas, Étienne Girard, une espèce de contradiction entre... le rapport montre clairement qu'on irrigue de plus en plus. Je crois que ça progresse partout. Et les politiques publiques ne parviennent pas ou ne veulent pas suffisamment peut-être... pointer ça, cette incohérence.
Oui, c'est vrai. En particulier, l'irrigation, c'est quelque chose qui a été occulté pendant des années du débat public. On ne s'est jamais interrogé sur le fait qu'on irrigue trois fois plus dans le domaine du vin, par exemple, par rapport à ce que c'était il y a 15 ans. On débat assez peu du fait que la culture du maïs est extrêmement demandeuse en eau et que ça pose problème au regard des réserves en France.
Après, moi, je me souviens d'il y a 15 ans, on interrogeait déjà le maïs, qui est gros consommateur d'eau.
Bah on interroge, vous avez l'impression qu'il y a des politiques publiques.
Le débat public, mais pas les politiques publiques.
Alors, mais ce qui est sûr, c'est que le sujet, il doit être pris globalement.
Hein, d'ailleurs, de changer.
C'est qu'on peut pas être 100% vertueux sur tous les aspects. C'est-à-dire que il faut relativiser l'utilisation de l'eau, la souveraineté alimentaire. la sobriété quand c'est possible. Il faut faire des choix globaux et s'y tenir de manière à avoir une politique publique cohérente. Si on décide que la priorité c'est la souveraineté alimentaire, peut-être que oui, sur certains produits on utilisera de l'eau, mais ça veut dire que dans d'autres domaines il faut être beaucoup plus vertueux, par exemple dans la réutilisation des eaux, où là, par rapport à certains de nos voisins, l'Italie, l'Espagne, on a énormément de retard.
On jettera ses premiers un coup d'œil, évidemment, sur ce qu'en disent les réseaux sociaux. Et on poursuit cet échange aussi avec notre invité hydroclimatologue après le point sur l'info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Étienne Girard est là, rédacteur en chef Société à l'Express. Véronique Ressoul, présidente de Backbone Consulting. Franck Diodieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et Florence Abetz, hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS. Alors, on parle de cette contradiction apparente entre un constat qui est quand même très alarmant, Florence Abetz clairement, des usages de l'eau qui évoluent dans le sens inverse. Comment on explique que personne ne, que personne ne veuille voir et que alors c'est peut-être la première fois qu'on a une photographie de ce type-là par France Stratégie, mais c'est pas la première fois qu'on constate que l'eau commence à manquer.
Oui, voilà, effectivement, les chiffres d'une diminution de la ressource en eau de 14%, en fait, ont été publiés déjà il y a 2 ans à peu près. Mais là, vraiment, la nouveauté, c'est que en parallèle, on voit l'augmentation de la consommation, en tout cas l'augmentation de la consommation agricole. Et ça, c'est particulier. Notamment, ce qui est bien mis en avant, c'est une augmentation très importante dans les régions du nord de la France, et en particulier dans les Hauts-de-France. Avec des pratiques qui sont liées au calibrage de la pomme de terre, voilà, donc des choses peut-être parfois un petit peu subtiles, mais qui peuvent consommer beaucoup plus d'eau et qui sont pas forcément complètement associées à la sécurité alimentaire.
Mais c'est des cultures qu'il faut envisager clairement d'arrêter progressivement, hein, c'est très complexe, mais
d'arrêter, en tout cas, voilà, c'est la pomme de terre est irriguée pour avoir des pommes de terre longues qui fassent des frites longues. Vous voyez, si vous voulez, c'est un choix de société, hein, finalement,
un choix de variété.
Très bien, manger c'est des voilà, c'est si on peut manger des potatoes plutôt que des frites, si vous voulez, ça
consommera moins d'eau.
Ça consommerait moins d'eau. Donc c'est plutôt un choix industriel, de la filière agricole, mais qui va jusqu'à la production du produit fini. Voilà. Et par rapport à ce qui a été dit, donc l'avantage de ce rapport là, c'est qu'il met en évidence que l'irrigation, par exemple, elle sert à environ à 30% à des produits qui sont liés à l'exportation. À peu près la même chose pour la quantité de produits qui sont consommés en local pour les humains, et environ la moitié, enfin 30% encore pour le bétail. Donc en fait voilà, on a cette filière là qui est assez bien définie. Et puis pour la première fois aussi, la quantité d'eau estimée, hein, pour les biocarburants, qui représente environ 5% de l'irrigation. Voilà, c'est des chiffres qu'on n'avait pas du tout avant, donc c'est vraiment intéressant de les avoir, sachant que ce que dit très bien aussi le rapport, c'est qu'en fait, on connaît mal ces quantités d'eau qui sont sans doute sous-estimées, parce qu'il y a énormément de forages qui ne sont pas connus, et voilà, les chiffres même ne sont pas toujours très cohérents.
L'idée de Véronique Ressoul, c'est aussi de se souvenir qu'il y a quelques usages dont on ne pourra jamais se passer, notamment de boire cette eau, enfin l'eau potable, est-ce que c'est ça qui ressort ?
Exactement, c'était le propos de René Dumont qui a été repris, c'était l'eau à boire. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les commentaires, alors le rapport en question est peu commenté encore aujourd'hui parce qu'il vient de sortir et qu'il faut assimiler ces chiffres nouveaux, mais on voit que très souvent est interrogée la notion de l'eau potable et du traitement de l'eau pour l'eau potable, alors qu'on se sert que finalement d'assez peu d'eau potable dans un foyer, par exemple. Donc en fait, c'est un sujet d'équipement qui est souvent évoqué, en particulier par les gens qui sont concernés par l'environnement et qui sont un peu militants. Et après, le sujet du manque de l'eau, quand je regardais dans l'opinion comment est-ce que les gens en parlent, alors on en parle beaucoup en Espagne. C'est un des pays où le sujet est très important, très souvent lié à l'agriculture. Quand on parle eau et agriculture en France, c'est plutôt des sujets autour des méga-bassines et des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui de combats parfois un peu complexes entre les besoins des agriculteurs et la réalité de la
Mais du
la
coup, ça relance le besoin de bassines dans ce que vous voyez
Exactement.
Là aujourd'hui.
Oui, ça relance beaucoup ce sujet-là.
Si il y en a moins, on va le stocker, c'est ça?
Exactement. Donc, ça relance des clivages et des débats. Et puis après, beaucoup d'illustrations autour des dom-toms et en particulier de Mayotte et de la réalité de le non-accès à l'eau dans les dom et qui sont précurseurs, en tout cas, ce que les internautes voient et l'opinion globalement se dit, ben, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, il y a des endroits et des territoires comme à Mayotte où il n'y a pas d'eau, où c'est très compliqué. Et donc, ça illustre bien la complexité.
Les Pyrénées-Orientales aussi.
Franck de Dieu.
Dans les Pyrénées-Orientales aussi, nous, on a interviewé sur le site de Marianne un expert pour lui poser finalement cette question de se dire, bon, dans notre esprit, dans l'esprit aussi de tout le monde, il y a une sorte de balance qui se crée en se disant, bah, la tombée de la pluie va coïncider, va compenser l'excès de soleil historique, quoi. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il nous a expliqué qu'il y avait ce qu'on appelle des nappes inertielles, c'est-à-dire des nappes qui n'ont pas le temps de se reconstituer parce bien qu'il y ait des chutes d'eau parce que il y a, par exemple, le réchauffement climatique et notamment le vent qui assèche très vite le sol. Et puis, d'autre part, ces feux de forêt aussi. Il nous a parlé de ces feux de forêt où vous avez une destruction des végétaux qui joue le rôle de conducteur dans les profondeurs. Si vous avez la fin de ces végétaux, ben, malgré la pluie, vous n'avez pas la capacité de cet excès de flotte de compenser demain les excès d'ensoleillement, ce qui est quand même effrayant. Et d'autre part, ce qui est encore plus effrayant, et pour les auditeurs et les téléspectateurs, ça doit quand même leur poser des questions, c'est de se dire, cet agrocarburant qui est quand même utilisé à des fins écologiques, a des effets qui sont pas écologiques. Et là, on se retrouve face à des questions assez vertigineuses sur le comment on fait.
Je sais pas si votre
Alors
expert
je ne suis pas capable d'y répondre.
Je sais pas si votre expert vous a parlé d'un autre sujet de cet ordre-là, qui est aussi le fait que l'eau ne pénètre plus les sols dans toutes ces ça pose toute la question de l'artificialisation, Florence Abetz. C'est un gros sujet aussi dans la régénération des nappes.
Oui, bien sûr, l'artificialisation des sols, c'est un sujet.
C'est quelque chose d'assez abstrait pour les gens souvent.
En fait, c'est pas compliqué, hein. Si vous mettez Absolument. Du béton ou même si vous tassez le sol pour en faire des routes ou même des parkings, eh bien, c'est très clair que l'eau va moins s'infiltrer que si c'est une prairie ou un champ, hein. Ça, c'est, voilà. Donc, l'artificialisation des sols, c'est simplement, on enlève de la fonction du sol, celle de porter de la végétation, et donc d'avoir un sol vivant avec des racines.
Je précise, ouais.
Je voulais revenir aussi sur ce qui a été dit sur les stockages, parce que c'est aussi un élément important du rapport. Donc qui identifie en fait les volumes qui sont stockés aujourd'hui dans les plans d'eau en France, hein, qui étaient mal connus, même le nombre de plans d'eau, de lacs, hein, de retenues était mal connu. Donc il a été estimé à 670 000 quand même pour un volume stocké de 18 milliards de mètres cubes, ce qui représente environ 10% en fait des écoulements en France. Et ils ont également estimé, alors avec peut-être une méthode qui pourra être affinée, mais les quantités d'eau qui sont évaporées de ces plans d'eau et qui représentent quand même 1 milliard de mètres cubes, c'est-à-dire presque un quart de ce qui est de la consommation d'eau. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pareil, on a dit, voilà, les biocarburants, ça peut avoir des effets induits, mais le stockage a également des effets induits qui sont quand même aussi considérables, rien que par l'évaporation.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Franck de Dieu, de Marianne, Véronique Rissoul, de Backbone Consulting, Étienne Girard de L'Express. On parlait de l'eau et de la façon dont c'était perçu sur les réseaux sociaux. Il y a en ce moment des inondations monstres à Dubaï. Et le lien est fait.
Oui, en fait.
Et quand on parle d'artificialisation du sol.
Exactement. Ouais. Les principes de viralité, ils sont sur les émotions et l'une des émotions, c'est la surprise. Et en fait, ces images, elles surprennent parce qu'elles sont dans un pays où on s'attend pas à ça. Il y avait beaucoup d'interrogations en disant, mais pourquoi du béton? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Et ils ont fait un lien avec les inondations. En fait, c'est souvent un moment où tout d'un coup, on comprend la réalité de la non-gestion de l'eau, de la complexité, de comment est-ce qu'on la conserve, comment est-ce qu'on l'évacue, quelles sont les réalités des traitements qui sont faits des terres. Donc en fait, ce sont des images qui sont très partagées et qui aident aussi à prendre conscience de la complexité. Mais un peu comme vous, Franck, les gens n'ont pas non plus la solution. C'est plus une interpellation et une incompréhension de comment c'est fait. Et sur Dubaï, c'était beaucoup de questions en disant, ils ont les moyens, eux, donc pourquoi ne... n'ont-ils pas pris les bonnes décisions au bon moment? Parce que les images, elles sont assez impressionnantes.
Juste pour conclure, Florence Abetz, et je précise tout à l'heure, parce que quand je disais les gens ne perçoivent pas forcément cette question d'artificialisation, ce que je voulais dire, c'est que ils ne comprennent pas quand on s'oppose, quand des politiques stoppent un projet de développement d'un centre commercial qui peut avoir son utilité, mais ne font pas forcément le lien avec ces problèmes de d'écoulement d'eau. Est-ce que vous êtes amené, vous, à conseiller des décisions publiques de cet ordre-là, et est-ce que ce genre de rapport peut vous aider de ce point de vue-là?
Alors c'est vrai que ça peut être compliqué pour un territoire de voir des nouveaux projets si on lui dit qu'il peut pas conquérir de nouvelles terres, mais en fait vraiment l'idée c'est d'utiliser toutes les friches qui sont existantes pour pouvoir faire les développements, plutôt que finalement pour d'utiliser des nouvelles terres qui sont souvent un petit peu moins chères. C'est toujours plus facile, si vous voulez, de couper des arbres que de démolir un ancien bâtiment. Donc c'est voilà, mais c'est de l'économie à courte échéance, alors que le gain à longue échéance est vraiment beaucoup plus important. Donc c'est un petit peu ce changement de paradigme qu'on retrouve sur beaucoup d'éléments concernant l'environnement, hein, c'est-à-dire ne pas privilégier les économies à court terme pour les privilégier à long terme. Et on a souvent plus de bénéfices en faisant certaines actions qui peuvent sembler un petit peu plus lourdes au début, mais qui sont vraiment des gains plus importants sur les temps longs. Donc oui, on est souvent amené à conseiller ce genre de choses, mais c'est pas évidemment les scientifiques qui tranchent. Hein.
Merci beaucoup Florence Abetz, hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée à l'ENS. Merci pour toutes ces explications. Allez, musique. Whether I'm gonna be your wife or gonna smash up your bike, I haven't decided yet, but I'm gonna get you back. Whether I'm gonna curse you out or take you back to my house, I haven't decided yet. Les informés, je vous sens pas transporté. Alors là, je suis un peu surprise par
connu, c'est pour ça.
L'effet est un peu loupé. Vous avez reconnu.
Oui.
Enfin, vous avez deviné. Bah, oui, mais est-ce que vous avez reconnu?
Bah, oui.
Donc ça, c'est le nouvel album. Mais pour ceux qui ont encore un doute, ça, vous allez écouter. Ça, forcément, vous connaissez.
Shake it.
Le voici.
Voilà.
C'est bah oui. Si là, ça va. Je suis surassurée. Mon Dieu. Ça va. Étienne Lira.
Ah oui, je peux.
Shake it off.
Bon, donc ça, c'est l'ancien, c'est le tube planétaire. Il devait y en avoir plein les réseaux sociaux.
Il y en a plein. Bon. C'est même pas. Il y en a plein les réseaux sociaux. C'est un phénomène sur les réseaux.
Oui, mais c'est pas que sur les réseaux sociaux. L'album, le nouveau, c'est The Tortured Poets Department, le cercle des poètes torturés. Pour ceux qui auraient passé les dernières années sur une autre planète, Taylor Swift, 34 ans. C'est de la pop country, devenue, donc je le disais tout à l'heure dans les titres, début 2024, la première artiste à devenir milliardaire par sa musique, uniquement grâce aux revenus de sa musique. Véronique, je vais vous laisser raconter peut-être, donc l'album est sorti ce matin, on le savait de longue date, mais c'est quand même la reine du marketing, Taylor Swift, et
mais
donc...
C'est un phénomène incroyable, parce que donc 460 millions de
simplement
fans.
Simplement ce qui s'est passé ce matin.
Et ce qui s'est passé ce matin, pour vous dire, comme c'est donc... Elle est plus que suivie, écoutez, enfin 460 millions, c'est de loin la star la plus suivie. Il y a une fuite où on apprend que l'album va sortir et on commence à chercher. Donc il y a un mot-clé qui sort et qui est Taylor Swift leaks, les fuites. Elle a tellement de pouvoir qu'elle arrive à faire bloquer par Twitter, les États en rêve, les entreprises en rêve, les gouvernants en rêve. Elle fait bloquer par Twitter les recherches avec ce mot-là pour être sûr que ça s'arrête. Et en fait,
c'est possible, ça.
La preuve. Alors après, okay. Ils ont contourné parce que quand vous empêchez, les gens cherchent quand même. Et c'est devenu un phénomène incroyable. Les uns et les autres ont commenté et il y avait une espèce d'hystérie sur les réseaux, mais une hystérie complète parce que le morceau était sorti. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Puis elle a pas commenté. Donc, est-ce qu'on pouvait le croire? Enfin, voilà.
Et alors, il y a ce moment à 2h du matin, heure américaine. Mmh. Où là, tout le monde attendait un album, et elle annonce, en fait, c'est un double. 31 chansons au lieu des 16 attendues. Ça bah, aussi, c'est...
Ah ben là, pareil, hystérie. Hystérie avec les uns et les autres qui se disent, mais là, maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, voilà, et ça va être quoi? Et lequel de ces 31 morceaux va être celui qui va... Enfin voilà, celui qui a fuité, est-ce que c'est le meilleur, est-ce que c'est pas le meilleur? Enfin bref, une hystérie, imaginez bien 460 millions de personnes qui s'auto-énervent sur un sujet. Voilà, on a du mal à se projeter, mais voilà.
Etienne Girard, est-ce que vous avez été bloqué sur les réseaux sociaux?
Non, j'imagine parce que
Girard, vous avez cherché.
Et que vous me faites une confidence, j'ai pas cherché.
Ah bah voilà.
Mais j'admire absolument, et j'admire à chaque fois, le sens du marketing. Et,
ah oui.
Et c'est une vraie femme d'affaires, Taylor Swift. Et à chaque fois, autour des sorties de ses albums, il y a des histoires. C'est la reine du teasing. Mmh. C'est-à-dire que ça n'existe plus une sortie d'un album de morceaux de Taylor Swift classique. Il se passe forcément quelque chose. Alors Beyoncé a repris la recette, mais on a l'impression que Taylor Swift, c'est quand même celle qui maîtrise le mieux cette surprise et cette façon toujours d'aller là où son public ne l'a pas attendu.
On a une grande spécialiste là, Véronique dit c'est pas pareil.
C'est pas tout à fait pareil, c'est pas les mêmes fans. Alors c'est quand même 360 millions de personnes qui la suivent, hein, mais c'est pas tout à fait pareil parce que elle, enfin voilà, il y a toute une industrie autour, ses fans sont des fans, mais sont moins dans l'attente parce que justement il y a les vêtements, il y a plein d'autres choses. Elle, ce qui est incroyable, c'est que c'est uniquement la musique, c'est les Eras Tour qui sont un truc dingue, et elle a une capacité marketing encore plus forte que celle de Beyoncé, donc on a l'impression maintenant que c'est Beyoncé qui suit, ce qui semble dingue.
Alors, c'est vrai que les chiffres donnent une tournée. Côté français, il y a 6 dates, 4 à Paris, 2 à Lyon, cherchez pas, c'est full, c'est plein. On va d'ailleurs écouter celui qui gère la tournée française, directeur général d'AEG Présence, qui était sur France Info ce soir, Arnaud Merzmann.
On est quasiment à plus de 250 000 tickets vendus et je pense que la demande était telle qu'on aurait pu quasiment doubler ce chiffre et arriver au demi-million de ventes, voire peut-être qui sait même au million, quoi. C'est une artiste qui casse absolument tous les records. C'est la première artiste à devenir un milliardaire grâce à sa musique. Son documentaire concert a passé les 260 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est délirant, il n'y a jamais un film concert qui a fait autant. Et là, juste sur la tournée, elle dépasse quasiment les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est des chiffres qui sont exceptionnels, c'est une unicorne, comme on peut dire, dans le milieu de l'économie.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On s'intéresse à Taylor Swift avec Étienne Girard, l'Express, Véronique Ressoul, Backbone Consulting, Franck de Dieu chez Marianne. Un mot sur un phénomène quand même assez étonnant, parce qu'il y a eu, alors je vous laisse raconter, une histoire de séisme.
Oui, c'est-à-dire, j'ai vu que vous aviez titré le séisme, et je trouvais que c'était fort à propos, puisque vous savez que ces fameux Eras Tour, les gens sont dans un tel état qu'il y a eu un jour où ils ont tellement tapé par terre, tapé dans les mains, enfin voilà, que ça finit par provoquer une espèce d'onde, comme si c'était un séisme, ça fait bouger la Terre, qui a été mesurée. Alors je ne vais pas dire d'ânerie, parce que
je l'avais écrit. Je crois que c'est 2,5.
C'est ça. Un truc incroyable quand même. Alors est-ce que ce séisme a une incidence dans le reste de la vie? Je laisse en débattre, mais alors, en tout cas, c'est assez incroyable, quoi.
Séisme, peut-être aussi côté politique. C'est Libération qui faisait sa une le week-end dernier, vous avez peut-être vu sur elle, avec cette question: Taylor Swift peut-elle faire perdre Trump? A priori, vous vous dites, bon, what? C'est quoi l'histoire?
Pourquoi pas,
Étienne Girard?
Si, je comprends bien pourquoi, puisque...
En gros, il y a la crainte d'un grand complot. Certains l'imaginent s'associant avec Joe Biden. Et en tout cas, les Trumpistes sont un peu en panique.
Bah, ce qui est sûr, c'est que...
Mais est-ce qu'elle peut... Voilà, je vous pose la question. Est-ce qu'elle peut faire perdre Trump?
Moi, oui. Alors, je vais prendre le
parti.
C'est
le moment de s'engager.
Voilà, de m'engager très clairement.
On va poser la même question.
Oui, évidemment. Quand elle demande aux Américains de s'inscrire sur la liste électorale dans la foulée, c'est Véronique qui me le glissait. 35 000 personnes le font dans des swing states, des États où c'est très serré et où peut y avoir entre Trump et Biden quelques milliers de voix d'écart, évidemment que la parole d'une personne qui déplace, ou en tout cas qui peut convaincre 35 000 personnes de s'engager en un jour, en quelques heures, en quelques jours, oui, ça compte. Et de plus, Taylor Swift, elle a un profil sociologique qui inquiète forcément l'Amérique de Trump et les Trumpistes. Elle vient de la country, elle est issue d'une famille traditionnelle, d'un milieu plutôt républicain. Quand un profil comme celui-là explique que, ou si elle explique qu'il faut absolument pas voter pour Trump, mais qu'il faudra mettre un bulletin Biden, eh bien évidemment que ça peut inquiéter le camp républicain, puisque ils peuvent penser qu'une partie de leur électorat risque de se détourner.
Franck de Dieu, qui était silencieux jusqu'ici, qui écoutait, êtes-vous de même avis ?
Non, je ne suis pas du même avis.
Je pressentais ça.
Il y a une sorte de storytelling, souvent, à la veille des élections, qui consiste à tirer un fil, si possible, s'il est un peu brillant, un peu pop, un peu glamour, et à trouver une explication. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une sorte de péché unicausal, qui est souvent le cas dans les commentaires. Rappelez-vous, on s'était dit Jacques Chirac a gagné parce que les guignols l'ont présenté face à Balladur. En vérité...
Parce que Madonna lui a acheté sa culotte.
Non, mais en vérité...
métaphore musicale.
Par rapport à 95, si vous voulez, il y avait vraiment une rupture entre une France qui était plutôt bonapartiste et donc proche de Chirac, par rapport à une France qui n'était pas libérale et qui était supposément proche de Balladur. Autrement dit, l'orientation politique... La décision d'un vote se mêle de multiples critères. Il y a une énorme complexité.
Il ne s'agit pas de dire que Taylor Swift fera toutes les élections américaines.
Quand je lis, ça fait trois semaines que je lis ça, je dis non. Taylor Swift fera l'élection américaine. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un peu de modestie, il y a une sorte de mais les électeurs américains sont très complexes. C'est un pays qui est politiquement, qui est traversé par des formes de polarisation à plusieurs inconnus. Et je rappelle sur 2002 aussi que on avait dit.
Tiens, je vais répondre peut-être. Mais
non, mais on avait dit. Rappelez-vous, c'est-à-dire que le fait de d'avoir une seule cause pour expliquer un vote ne simplifie la réalité et simplifie notamment la complexité de l'état de l'opinion. En 2002, il y avait ce fameux reportage qui était largement diffusé sur Papivoise, qui s'était fait agresser à Orléans, et on avait dit, regardez, on a mis sur le devant de la scène le thème de l'insécurité, ça a fait basculer l'élection pour mettre Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Il se trouve qu'avec un peu de recul, alors 20 ans de recul, en vérité, ces sujets-là, c'est pas un reportage qui fait basculer les choses et qui empêche finalement d'avoir une lecture un peu générale, un peu systémique du sujet.
Étienne Girard.
Ce qui est sûr, c'est que les causes du vote, elles sont multiples, effectivement, et que l'influence supposée de Taylor Swift, elle sera jamais mesurable. Mais dans des États, la Géorgie, par exemple, où c'est très serré, ça peut jouer à 10 000 voix près, rendez-vous compte. Et cet État peut faire l'élection américaine. Et bien, à 10 000 voix près, oui, quelqu'un comme Taylor Swift fait partie des gens, parmi d'autres, qui peuvent faire basculer et déplacer quelques voix.
Et après, l'opinion, évidemment, une élection, c'est pas un fait, c'est un faisceau de, mais l'opinion, à un moment donné, quand vous leur mettez sous les yeux quelque chose qui va révéler un sujet qui est latent, oui, bien sûr, ça fait passer à l'action. Donc on peut pas dire que c'est elle qui fera l'élection, mais on peut pas dire qu'elle n'aura pas d'incidence.
Étienne Girard, je suis sûr que vous avez toujours rêvé d'annoncer la une sur fond de Taylor Swift.
Ah, surtout celle-là.
Une de l'Express, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais, c'est le Moyen-Orient. Le scénario du pire, on évoque ce qui pourrait se passer dans les jours mais aussi dans les mois à venir entre Iran et Israël, ne pas s'arrêter à ce qui s'est passé ce matin.
Franck de Dieu, la une de Marianne.
On fait notre une sur le vrai Glucksmann avec ce sous-titre qui est important, nouveau prophète pour vieille gauche.
L'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux, ça c'est Véronique Rissoul qu'on lit aux éditions du CERF. Les informés du week-end seront là bien sûr à 20h avec Victor Maté. Nous on sera là lundi à la même heure. Très bonne soirée.